d'Europe, Juliette Rangeval.
Bonjour, c'est un mois de toutes les couleurs. Juin, c'est le mois des fiertés, une manière de soutenir les actions et les combats des homosexuels, des bisexuels et des transgenres, de lutter contre les discriminations et le harcèlement, avec le drapeau arc-en-ciel comme étendard. Le week-end dernier, l'université de Dublin accueillait ainsi la Union Cup, la Coupe d'Europe de rugby gay. Hôte de la compétition, le club des Emerald Warriors, où s'est rendu Robin Dussène.
Il est 19h30 sur le terrain de Clontarf, au nord-est de Dublin, et les averses ont laissé place à un arc-en-ciel. C'est l'heure de l'entraînement pour les Emerald Warriors. Ancien joueur, ancien président et maintenant coach, Simon Finnegan était là au tout début.
Le club existe depuis 2003. Il a été fondé par Michael Richie White, qui avait vu jouer les King Cross Steelers, la première équipe de rugby gay et LGBT au monde. C'était à Londres et après les avoir découverts, il s'est dit que ce serait une bonne idée de faire la même chose en Irlande.
Le club des Warriors se veut inclusif et propose un cadre rassurant pour tous les joueurs, quelle que soit leur sexualité.
I'm Connor Bullman and I'm 24.
Connor Bullman a 24 ans, il a rejoint l'équipe l'été dernier.
J'avais beaucoup entendu parler des Warriors, c'est un de mes amis y jouait, donc je me suis pointé à une porte ouverte et depuis, ils doivent me supporter. Pouvoir rejoindre un groupe d'amis basé sur le sport sans se soucier de faire son coming out, c'est vraiment reposant. Dans l'équipe, personne n'en fait des tonnes et il n'y a pas de jugement sur le terrain ou en dehors.
En 15 ans, le club s'est structuré et s'est construit une petite réputation. Césaire Tchoudjuen a vu les mentalités évoluer sur le bord du terrain.
On joue contre les mêmes équipes tous les ans. Et des équipes qui nous battaient 120-0 il y a 4 ans, cette année on les battait 60-30. Rien que de voir l'impact au final, même certains des joueurs des autres équipes nous disent « On a perdu, mais on est fiers d'avoir perdu contre vous aujourd'hui. » Ça va pas changer le monde, mais ça influe sur les personnes qui n'ont pas forcément un pied dans le milieu gay. Au final, ils réalisent qu'on est exactement pareil. Et il n'y a pas de raison de se prendre la tête ou de devenir méchant et de se replier sur soi-même comme certains le font.
En 2015, l'Irlande a voté à une large majorité en faveur du mariage pour tous, un tournant pour la société, même si l'homophobie reste présente, comme l'explique Oran Sweeney, le capitaine qui porte fièrement les lacets arc-en-ciel.
Cette saison, le joueur gallois Gareth Thomas s'est fait agresser parce qu'il était gay. Puis la campagne du souvenir de Stonewall a débuté, pendant laquelle de nombreux joueurs internationaux portaient des lacets arc-en-ciel pour le soutenir.
Il y a 50 ans, une descente de police musclée au Stonewall, un bar gay de New York, donnait lieu à des émeutes, le début d'un mouvement militant et politique LGBT.
Alors, en tant que club, on a décidé de faire pareil. Sur la ligne de touche et sur le terrain, tout le monde avait les lacets arc-en-ciel. C'est un objet très simple, mais si toute l'équipe les porte, ça permet vraiment de revendiquer quelque chose.
Mais pas question de dramatiser. Pour Gary Lynch, qui joue au rugby depuis l'âge de 7 ans, l'important est de démonter les clichés.
On organise des soirées drag queen pour récolter de l'argent, mais en même temps, les clubs normaux font la même chose. Ils font aussi des soirées bingo avec des drag queens. Donc oui, être gay fait partie de la vie du club, mais sinon, c'est pareil. On sort, on joue au rugby, on boit des bières. Rien d'extravagant. Vous savez, les gens me demandent toujours, quelles sont les choses folles que vous faites? On fait des trucs de rugby, pas des trucs gays. Ouais, des trucs de rugby.
Allez, dernière mêlée pour les Emerald Warriors. Après avoir perdu en demi-finale contre les Steelers, futurs vainqueurs de l'Union Cup, le club dublinois va maintenant prendre des vacances. Reprise du championnat de Leinster à la rentrée prochaine. Twitter, YouTube, Uber, Facebook,
Instagram, Netflix. À l'ère des ordinateurs, on reste à distance. Plus social, mais moins sociaux. C'est une phrase du pape François prononcée pendant la messe de Pentecôte le week-end dernier. Le souverain pontife qui met en garde contre les excès des réseaux sociaux, il en sait certainement quelque chose, l'a papoté à un compte Twitter depuis le 12 décembre 2012. Et toutes les églises investissent désormais l'espace numérique. En Allemagne, une paroisse berlinoise a même créé un nouveau poste pour mieux appréhender l'Internet, celui de pasteur dans l'espace numérique. Et c'est Teresa Bruckner qui l'occupe, Déborah Berlioz.
L'outil favori de Teresa Bruckner est un petit bijou de technologie. C'est une caméra de poche avec stabilisateur intégré. Elle se filme en allant au travail, à la maison, pendant des conférences ou encore quand elle prépare ses prêches. Et cela fait partie intégrante de son travail. Pasteur dans le monde numérique, elle fait entrer l'Église sur Internet. Selon elle, l'Église protestante allemande a bien trop longtemps négligé l'importance de la toile et des réseaux sociaux. Or, Internet est aujourd'hui indispensable pour garder le contact avec les fidèles, notamment les jeunes. De nos jours, les gens cherchent plus facilement leurs réponses sur Google qu'en franchissant le seuil d'une église. Mais on trouve de tout sur Internet.
L'année dernière, deux jeunes sont venus me voir parce qu'ils avaient vu une vidéo sur YouTube qui disait que l'homosexualité n'est pas acceptée dans l'église. Et cela les avait plutôt effrayés. L'église doit absolument communiquer et dire clairement que ce genre de discrimination n'a pas sa place dans ses rangs.
Sur sa chaîne YouTube, Teresa a donc consacré une vidéo entière à la question de la foi et de l'homosexualité. Dans une autre vidéo, elle dresse un bilan de ses 100 premiers jours en tant que pasteur. Elle parle des bons moments, mais aussi du sexisme auquel elle doit encore faire face. Et la jeune femme semble trouver son public. Elle compte déjà plus de 5800 abonnés sur Instagram et 1700 sur Twitter. Alors certes, Teresa rencontre encore des réfractaires, ceux qui disent que l'église n'a pas besoin d'Internet. Mais elle voit des transformations encourageantes. L'église protestante allemande organise désormais des conférences sur le sujet et finance même une chaîne YouTube.
Le smartphone et les réseaux sociaux sont d'incroyables outils de communication qui peuvent parfois devenir une arme quand des personnes mal intentionnées et bien cachées derrière leur écran se mettent à vous harceler.
C'est une réalité du monde numérique. Le harcèlement y est bien présent. En France, d'après une récente enquête de l'IFOP, plus d'un jeune sur cinq s'est fait harceler en ligne, injures, menaces. La CNIL a lancé une nouvelle campagne pour sensibiliser ces jeunes à l'usage des réseaux sociaux. Réfléchissez avant de cliquer. Et dans les collèges, les ateliers se multiplient. C'est le cas à Amiens Nord, dans les quartiers populaires de la ville. C'est un reportage de Lise Verbeck.
Bonjour.
Ce jour-là, c'est un comédien du quartier, Mohamed Sediki, qui est chargé de sensibiliser les jeunes au cyberharcèlement.
Je suis comédien, j'ai participé à une pub contre le harcèlement. Je vais vous la diffuser. Et une fois qu'on l'aura diffusée, on va débattre sur cette pub.
Dans cette pub, il joue le rôle d'un enfant obèse. L'une de ses camarades poste sur le net une photo de lui en cours de sport où son t-shirt dévoile une partie de son corps.
Un enfant sur 10 est victime de harcèlement à l'école.
Donc du coup, la personne qui a fait ça, qui a diffusé, qui est, on va dire que c'est la fille qui a sur le téléphone, elle diffuse, c'est elle qui m'a harcelé. Vous êtes d'accord avec moi?
Non.
D'accord, ok.
Non. C'est elle.
Tout le monde l'a vu et tout le monde a rigolé.
Non, mais c'est elle.
D'accord.
Qui a partagé. Tout le monde a harcelé.
C'est elle qui a partagé. Mais si par exemple, moi, là, tout de suite, je le prends en photo et je marque une phrase en bas qui est très méchante et tout le monde, là, tous ensemble, on like. Juste, on marque j'aime, on marque un petit commentaire. Est-ce que nous, on devient harceleur ou pas?
Oui,
puisqu'on agit pas.
Non.
Attends, il y a eu qui disent oui, est-ce qu'ils ont...
Ça dépend, tu marques quoi comme commentaire?
Attends, excuse-moi, pourquoi t'as dit non?
On est les complices parce que parce qu'on va pas dire aux adultes.
D'accord, ok. Quand on m'a proposé ce rôle, j'ai dit oui tout de suite, mais je savais pas que ça allait avoir un impact aussi fort en vrai. Et surtout quand moi je le présente, les gens le regardent différemment et les gens s'ouvrent en fait derrière. C'est-à-dire que même les gens qui ont pas eu le courage de parler de leur harcèlement, on parle pendant le débat quoi.
C'est le cas notamment de Louane, 14 ans.
J'étais sur Snap et une fille m'a ajoutée. Elle m'a demandé une photo de moi toute nue, sauf que moi j'ai pas voulu. Je lui ai dit non. Donc elle, en fait, il y avait plusieurs personnes qui lui avaient envoyé. Donc
tu la connaissais cette fille?
Non, je la connaissais pas. Donc elle m'a envoyé la photo de la fille et elle m'a dit si tu m'envoies pas, je dis que la photo est faite par toi. Et elle l'a postée partout. Et je lui ai dit que non, j'en ai parlé à ma mère et puis ça s'est réglé.
Mais parler à un adulte est loin d'être un réflexe qu'ont les adolescents. Et les réseaux sociaux sont la source de beaucoup de conflits, selon Michel Rogier, enseignant en collège.
Par exemple, dans la cour de récréation, les disputes qui arrivent ont souvent un début via des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'avant, je dirais que les conflits se créaient en cours de récréation. Maintenant, les conflits se créent à la maison en amont et sont ramenés ensuite en cours de récréation ou même des fois dans les classes. Le problème de nos jeunes, c'est qu'ils ont tendance à se dire qu'ils sont cachés derrière l'écran et que on ne sait pas qui a posté quoi ou qui sont protégés ou personne ne les voit, alors que et ça a des conséquences quand même qui sont très graves.
Des conséquences qu'a subi Aline, la jeune fille évoque à demi-mot ce qu'elle a vécu.
Il y a souvent des disputes à cause de ça. Souvent. Genre on commence à insulter, après ça commence à menacer. Genre le lendemain, on te voit à l'école et tout ça, on te frappe. Voilà, c'est ça. Ça m'est déjà arrivé il y a un an. Oh, moi, on m'insultait, on me menaçait, on me frappait, on faisait tout.
Alors, nombre de fusées sur les réseaux, 0. Nombre de photos publiées, 4 sur 15.
Au-delà du cyberharcèlement, les professeurs savent qu'ils ont un vrai rôle à jouer pour sensibiliser les jeunes. Alors, comment bien utiliser les réseaux sociaux? Comment se prémunir des dangers? Pour cela, il faut trouver des moyens ludiques. Michel Rogier permet régulièrement à ses élèves de participer à un jeu éducatif sur l'ordinateur. Un jeu qui s'appelle 2025 Ex Machina.
En 2010, Fred, avec des camarades, il est au lycée. Lors d'une soirée, ils font une vidéo où il fait semblant de tuer un chat. Et 15 ans plus tard, il postule pour un travail dans une entreprise qui défend les animaux. Et cette photo qu'il avait prise et qu'il avait postée à une amie proche ressort lors de son entretien et va faire qu'il n'a pas le métier. Donc ils vont devoir refaire tout le réseau social depuis 2010 pour que Fred puisse avoir un travail. Donc l'idée, c'est de montrer que des photos ou des textes que l'on va mettre peuvent avoir des conséquences beaucoup plus tard. Et donc prendre conscience que oui, on ne doit pas faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux.
Encore beaucoup de jeunes présents ce jour-là n'ont pas le réflexe de protéger leur compte sur Internet. Mais après plusieurs ateliers de sensibilisation, Yanis est plus prudent.
Avant, j'ajoutais n'importe qui.
Et maintenant, tu fais attention.
Oui, parce qu'il y en a qui piratent ou qui mettent les photos sur leur compte et qui passent des photos à des gens. Et voilà, il faut pas faire confiance.
À Amiens, les adolescents apprennent aussi à décrypter des rumeurs ou infox sur le net tout en aiguisant leur esprit critique.
Ah oui.
C'est un film qui n'est pas encore terminé, mais qui fait déjà couler beaucoup d'encre en République tchèque. Il s'agit d'une mise en scène destinée à exposer le comportement de pédophiles qui repèrent leur proie en ligne, sur les réseaux sociaux, sur les chats et les sites de rencontres. Les réalisateurs ont employé des méthodes assez controversées pour tourner ce film. Le financement a été assuré grâce à un financement participatif qui a dépassé tous les objectifs prévus, Alexis Rosenzweig.
Dans des décors reproduisant une chambre d'adolescente et une salle de bain, des jeunes filles conversent en ligne sous l'œil de plusieurs caméras. C'est pour les besoins d'un film sur la toile, pas encore sorti, mais qui fait déjà beaucoup parler de lui. Pour le tourner, ces deux réalisateurs tchèques ont sélectionné 3 jeunes filles majeures, mais dont le physique pouvait facilement leur permettre de faire croire qu'elles n'avaient que 12 ans. D'entrée, le constat est accablant, à peine les faux profils des filles ont-ils été enregistrés, que des dizaines de messages affluent sur leur compte. Si la première ligne est parfois innocente, le dialogue passe souvent très rapidement à des sujets comme la masturbation, raconte le réalisateur Vit Cloussac, connu pour employer dans ses films des méthodes peu orthodoxes. Le tournage ne s'est pas limité aux conversations sur Internet. Les 3 actrices ont en tout rencontré dans des cafés pragois une 20aine de ces prédateurs sexuels filmés par un dispositif de caméra dissimulée. C'est à l'origine un opérateur internet qui avait contacté le réalisateur pour un court-métrage devant servir à alerter parents et enfants sur les dangers encourus sur la toile. Le problème lui est apparu tellement grave que ce sera finalement un long-métrage produit grâce à un financement participatif. Financement qui totalise déjà 100 000 euros, soit le triple de l'objectif fixé au départ. L'archevêché catholique de Prague a voulu participer. L'équipe du film a refusé, expliquant ne pas vouloir être liée à une institution qui avait contribué à couvrir des abus sexuels sur mineurs. Désormais en montage, le film sur la toile sortira au printemps prochain.
La République tchèque où le Premier ministre Andrej Babiš exclut toujours de démissionner malgré les accusations de conflit d'intérêts, malgré la pression de la rue. Ce milliardaire au pouvoir depuis 1 an et demi continuerait de recevoir de l'argent européen et tchèque versé à son ancien groupe d'agroalimentaire Agrofert. Les audits sont en cours à Bruxelles. Margot Turgy.
Drapeau tchèque et pancarte à la main, la foule clame sa colère en plein cœur de Prague. C'est l'ONG Transparency International qui a déposé plainte contre Andrej Babiš l'année dernière pour conflit d'intérêts. Milan Abel est membre de l'organisation.
Nous avons consulté des documents publics qui montrent que même si le Premier ministre Andrej Babiš a transféré ses parts au sein du groupe Agrofert à un fonds fiduciaire, il continue à contrôler l'entreprise et donc de recevoir de l'argent. Nous avons trouvé des preuves de cela et nous avons donc porté plainte contre lui parce qu'Agrofert reçoit de l'argent de la République. République tchèque et de l'Union européenne.
Le Premier ministre tchèque nie en bloc ces accusations. Devenu milliardaire grâce à son groupe d'agroalimentaire Agrofer, Andrei Babiš est entré en politique au début des années 2000, mais il a gardé ses réflexes de chef d'entreprise, comme l'explique Guillaume Narguet, journaliste à Radio Prague.
Il est entré en politique avec l'idée de diriger l'État comme on dirige une entreprise. Les médias étrangers l'ont souvent présenté comme le Trump tchèque ou le Berlusconi tchèque. C'est un homme qui décide beaucoup seul. On s'aperçoit aujourd'hui que c'est un homme qui accepte très mal la critique. Il se place souvent dans une position de victime de l'Union européenne, mais aussi des autres partis entre guillemets traditionnels.
S'il fait aujourd'hui face aux plus grandes manifestations qu'a connues la République tchèque depuis la révolution de velours de 1989, il faut relativiser leur poids. Dernière preuve en date de la popularité d'Andrej Babiš, son parti de centre-droit ANO, qu'il a lui-même fondé, est arrivé en tête des élections européennes il y a deux semaines avec 20% des voix. Difficile donc de prédire l'impact réel que les manifestations pourraient avoir sur son mandat, mais elles témoignent de la naissance d'un mouvement de fond dans la société tchèque. C'est ce qu'analyse Nicolas Maslowski, qui, après avoir enseigné à l'université de Prague, est aujourd'hui responsable du Centre de civilisation française à l'université de Varsovie.
Il y a très clairement un mouvement social de rejet de la corruption en politique, des trafics d'influence, et ce mouvement est vraiment parti pour durer. Il est un signe de la vigueur de la société tchèque, mais on voit ce genre de mouvement dans toute l'Europe centrale. Par-delà les dangers de populisme, l'État qui n'est pas toujours parfait, l'État de droit qui n'est pas toujours respecté, on voit qu'il y a un attachement très fort des sociétés d'Europe centrale à l'idéal d'un État moderne et à une démocratie européenne.
En attendant les conclusions des audits en cours à la Commission européenne, qui pourraient contraindre Andrej Babiš à rembourser 17 millions d'euros de subventions, rendez-vous est pris pour une autre manifestation le 23 juin prochain. Les organisateurs attendent jusqu'à 300 000 personnes.
La Turquie veut relancer la production de cannabis. Le président Erdogan espère que cela dynamisera l'économie du pays et que ce sera bon aussi pour l'environnement à Nandoer.
Devant un parterre de responsables locaux, réunis pour entendre les idées du chef de l'État sur le rôle des administrations territoriales dans le nouveau régime hyper-présidentiel, Recep Tayyip Erdogan dévie soudain de son propos pour évoquer sa mère et les filets à provisions qu'elle tricotait elle-même. Ils étaient biodégradables, se souvient le président turc, dont le gouvernement a interdit au début de l'année les sacs plastiques gratuits aux caisses des magasins. Puis il ajoute, ému et nostalgique, au sujet des filets de sa mère, « Ils étaient faits en chanvre, nous avons détruit le chanvre dans notre pays ». Les sacs de course présidentielles étaient en chanvre textile, autrement appelé chanvre agricole ou industrielle, que la Turquie cultivait en masse au début du XXe siècle. Mais ce que Recep Tayyip Erdogan souhaite aussi relancer, c'est la production de cette plante pour un usage médical, sous sa forme psychotrope, autrement appelée cannabis. Plus qu'un souhait, c'est même déjà une réalité. Fin 2016, la Turquie a autorisé la culture du cannabis, culture strictement encadrée bien sûr, dans 19 de ses 81 provinces et prévoit d'élargir ses espaces de production. Dans son discours, Recep Tayyip Erdogan regrettait aussi que la production turque, autrefois florissante, ait subi un coup d'arrêt à cause, selon lui, de certains ennemis déguisés en amis. La presse pro-Erdogan a immédiatement désigné le coupable, les États-Unis, qui, en interdisant des dizaines de médicaments à base de cannabis dans la première moitié du XXe siècle, auraient fait plonger la production turque. Ces mêmes journaux, dont certains titres islamistes, se sont aussi mis à publier des articles vantant les 1001 bienfaits du cannabis et saluant la démarche du président comme une façon de lutter contre l'impérialisme occidental, toujours avide selon eux de nuire au développement de la Turquie. Quant à la consommation récréative, la production et la vente non réglementée de cannabis, elle reste évidemment illégale et punie de plusieurs années de prison.
Accent d'Europe à la réalisation, Françoise Grelot. Vous retrouvez le podcast de l'émission sur RFI.fr et sur les réseaux sociaux. À bientôt.